Avec Hélène Lherbet, ABD Boom, bonjour.
Bonjour.
On va parler des aventures d'un gobelin en pays de Braux. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Les aventures d'un gobelin en pays de Braux, qui a aussi un deuxième titre, qui est L'extraordinaire après-vie d'Alice Osmond, ou Les aventures d'un gobelin en pays de Braux, est un livre d'illustration au format, je dirais, assez peu classique. Je dirais que ça se rapproche un peu du roman graphique, mais en même temps, c'est entre le livre d'illustration et le roman graphique, avec un format qui peut faire penser à la BD, mais donc sans bulles ni cases. On est dans du fantastique, dans de la féerie gothique et décalée. Et donc, les aventures d'un gobelin en pays de Braux racontent l'après-vie d'Alice Osmond, qui, passant de vie à trépas, se retrouve non pas en enfer ou au paradis, comme il l'aurait naïvement supposé, mais dans un univers imaginaire parallèle qui est l'au-delà, qui est le monde des revenants, en fait, et du petit peuple, en fait, donc féerique, mais lié, toujours lié à l'au-delà et donc et à la mort. Sauf que cet au-delà-là est bien différent, je dirais, d'une après-vie morne et triste, vu que c'est assez festif et coloré, voilà. Et donc dans cette après-vie où sa vie continue, il va faire la rencontre de créatures héritées d'un folklore normand nordique qui est pas forcément très 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 connu. Et donc chaque chapitre est consacré à un épisode donc de sa nouvelle après-vie avec une de ces créatures là. On retrouve aussi dans le livre a un côté encyclopédique, vu qu'on retrouve des encarts en bas de page qui vont revenir sur l'étymologie, l'origine ou la symbolique de telle ou telle créature, et notamment dans le folklore scandinave, dans des épisodes bien précis de la mythologie ou des sagas scandinaves, pas forcément très connues non plus.
J'avais envie de te demander comment était né Alice, peut-être comment il est mort, mais comment est venu ce projet qui est complet, puisque tu dessines, tu as fait la maquette, tu as aussi beaucoup écrit, beaucoup fait de recherche, je suppose. Donc comment tout ça est arrivé aux éditions Charles Corley ?
En fait, l'idée est venue, c'est assez, je dirais, assez bizarre. Enfin, je suis allée visiter le Mont Saint-Michel il y a 3 ans maintenant, en famille, et en redescendant, je me suis dit, ah tiens, je crois que je vais faire un livre qui va parler des créatures héritées de ce folklore nordique au moment donc où les Scandinaves ont commencé à partir à la conquête de l'Europe, que ce soit en Normandie, les îles anglo-normandes ou aussi l'Angleterre. Et donc le mélange de ces deux cultures, donc la culture celte qui existait donc sur les territoires que je viens de citer, avec la culture nordique et une forte empreinte nordique, qu'est-ce que ça a pu donner au niveau du folklore et au niveau du petit peuple, en fait, de ces régions-là et de cette époque-là en particulier. Je me suis dit, j'ai envie de dépoussiérer tout ça, de faire quelque chose de nouveau. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un livre justement où il n'y aurait pas un seul humain et où tous les personnages seraient morts, en fait. Donc je ne sais pas si c'est Saint-Michel ou le dragon qui m'a inspiré, sans doute le dragon, mais pour cette histoire. Et à partir de là, je me suis lancée, j'ai dit on y va. Et puis après, au fur et à mesure de mes recherches, le livre a évolué, puis s'est mis en place aussi, hein, et c'est dessiné de toutes les manières possibles.
Alors c'est très particulier parce que c'est vraiment complète, c'est-à-dire que c'est très 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 fouillé au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit, et puis les informations sont très importantes. Et je crois que tu as fait des études littéraires, hein, mais tu as une patte assez importante au niveau du dessin, donc depuis quand est-ce que tu travailles ça, et puis comment est-ce que tu illustres ?
Le dessin, je crois que je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Donc après, effectivement, j'ai pas fait de formation classique de graphiste ou d'illustratrice. J'ai fait une formation d'historienne, effectivement, historienne médiéviste. Ça peut expliquer effectivement les recherches, les textes, etc. Parce que cette formation-là m'a donné quand même, on va dire, un peu les clés pour savoir où chercher, dans quelles sources. Puis après, au niveau du dessin, j'ai beaucoup donc travaillé par moi-même toute seule, hein, jusqu'à obtenir quelque chose qui m'allait, on va dire, même si on est toujours en progression et en progrès, forcément, plus on travaille, plus on arrive à faire de choses, je trouve. Savoir comment j'illustre, je fais beaucoup de crayonnés, en fait. Je fais beaucoup de croquis, beaucoup de crayonnés, je travaille beaucoup ça. à partir de là, je mets ma couleur après. L'illustration nourrit le texte et le texte nourrit l'illustration. Vu que je fais les deux, ça, je peux partir d'une illustration et le texte va venir de l'illustration, comme je peux commencer à écrire un texte et l'illustration va me venir d'un coup. Donc je vais lâcher le stylo pour prendre le crayon et d'essayer de dessiner ça avant que l'idée ne soit partie ou se soit modifiée. Donc voilà, c'est un peu de concert tout ça.
Qu'est-ce qui font tes inspirations graphiques ?
Ah, alors mes inspirations graphiques, j'en ai pas mal. On va essayer de partir le plus loin dans le temps. On va essayer pour revenir du plus près. Bon, bah, la peinture classique, moi je suis très inspirée par Bosch, notamment Jérôme Bosch, univers assez fantasmagorique, le fait qu'il y ait des petits monstres, des petits démons partout. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre où à chaque page il y a toujours des petites bêtes qui se cachent, etc. Je suis assez fascinée par ce qu'il fait. Je suis très influencée au niveau de l'ombre et de la lumière par tout ce qui est le courant caravagiste, en fait, que ce soit le Caravage ou tout le courant caravagiste hollandais, donc Terbruggen, etc., qui quand même, c'est très très beau. Il y a beaucoup de contrastes et dans mes dessins, je sais que il y a énormément de contrastes. Le contraste entre l'ombre et la lumière est très appuyé, mais c'est un rendu que je veux donner aussi, hein. Après, bon, bah, dans les illustrateurs un peu plus de la féerie, il y a les pré-raphaélites aussi. J'aime beaucoup ce qui est fait dans le pré-raphaélisme au niveau des couleurs, au niveau travail des tissus notamment, donc ça c'est des choses qui m'interpellent aussi. Après, des illustrateurs comme John Bauer, qui sont pas forcément moins connus parce que c'est des illustrateurs étrangers, mais Dulac, c'est Edmund Dulac, bon, c'est un Français, c'est un Toulousain qui est parti vivre en Angleterre après. Bon, tout ça c'est des choses qui m'ont marqué. Plus récemment, je suis très influencée par le cinéma expressionniste allemand, en fait, que j'adore. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'a influencée. Que ça soit Lang ou Murnau, il y a une esthétique. Et bon, c'est vrai que parfois, d'ailleurs, dans le livre, on peut retrouver certains clins d'œil. Je pense que ça se voit. Même quelqu'un comme Méliès, que j'adore aussi, ça, c'est des influences. Même si c'est un autre support, c'est du cinéma, c'est graphique, c'est visuel, et ça, ça m'a influencé. Après, plus récemment, des cinéastes comme Tim Burton, mais aussi Lynch, par exemple, avec côté assez déjanté, je dirais. J'aime beaucoup aussi tout ce qui se fait au niveau comics, donc je sais, comme Hellboy de Mike Mignola ou ce genre de choses, ou tout l'univers de Batman avec Gotham, etc. Bon, ça, c'est des choses forcément qui sont... Je crois que j'ai fait un petit peu le tour.
Bah, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs choses sur tes illustrations. Souvent, il y a Burton qui revient, mais qu'en après-coup, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de l'expressionnisme. C'est vrai que des fois, on a l'impression de se promener un peu dans le cabinet du docteur Caligari. Enfin, moi, j'ai eu plus encore cette impression-là. Je voulais savoir aussi, il y a des petites bêtes dans ton livre. Donc, est-ce que, par exemple, tu es intéressé par les furets ou est-ce que c'est juste que c'était plus pratique à dessiner ?
En fait, j'aime bien les petites bêtes, les petits côtés bêtes, bestioles, petits monstres. Je parlais de Bosch tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai que dans les peintures de Bosch, à chaque fois qu'on regarde, on voit des espèces de petits monstres, de petites bêtes qui se cachent partout, que ce soit des bêtes à bec, des bêtes à plumes, des bêtes à écailles, il y en a partout. Et ça, c'est quelque chose, ouais, non, j'aime bien les monstres, qu'ils soient petits ou gros, mais ouais, j'aime bien les petits monstres.
Tu pourrais presque faire un Où est Charlie, mais avec des monstres, en fait.
Oui, c'est possible.
Au niveau d'une bande son qu'on pourrait écouter en même temps que la lecture de l'aventure d'Alice Osmond, qu'est-ce que tu conseillerais ?
Je dirais que déjà, le titre annonce la couleur. Je dirais que Alice Cooper est incontournable. Hein. Alice Osmond, donc, qui est un adolescent, un garçon qui s'appelle Alice, comme Alice Cooper. Donc ouais, j'aime beaucoup Alice Cooper. J'aime beaucoup sa musique, mais j'aime beaucoup aussi tout. Donc c'est quand même, je veux dire, tout son travail scénique, etc. Le personnage qu'il a travaillé. Il y a du graphisme, en fait, dans ce qu'il fait. Il y a des choses qui sont très visuelles. Ça, je dirais que c'est la première référence au niveau du son. Après, il y a quand même un peu de métal, Metallica, Iron Maiden, des classiques, hein. Voilà, même si après, bon, je pense que après ça s'élargit, je pense aussi ailleurs, je pense que bon, du viking metal, je dirais, vu le thème, les créatures nordiques, on y est dedans aussi. Après, bon, des groupes un peu plus je dirais peut-être un peu plus folk comme Faune, ce genre de choses. On y est aussi parce qu'on est dans, on est dans une tradition quand même de merveilleux. Oui, il y a un côté celte quand même malgré tout qui est assez marqué dans le livre. Donc je dirais que comme d'un point de vue graphique, on va dire que c'est une bonne soupe dans laquelle on a mis plein d'ingrédients.
Moi, j'ai quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un livre 1. Est-ce qu'on peut espérer un livre 2 et quand ?
Alors, il y a un tome 2 qui est prévu normalement donc pour la fin 2013. Et il y aura peut-être un... Je suis en train de travailler dessus sur un spin-off, en fait, qui pourrait sortir avant, début 2013. Donc, afin de patienter jusqu'au 2. Tout ça est en cours. Et donc, j'espère que 2013 verra la sortie de 2 livres.
Pas mal. Ça serait une activité assez intense, hein. Le spin-off, ça serait pareil avec beaucoup de textes ou plus des illustrations et puis revenir à beaucoup de détails dans le texte, dans le livre 2.
Ouais, le spin-off, on est plus sur de l'illustration, effectivement. Il y aura moins de texte, ça sera avec plus un côté artbook, je dirais, même si il y aura quand même du texte. Tandis qu'effectivement, sur le livre 2, on reviendra sur quelque chose avec du texte, avec des informations encyclopédiques, historiques, etc. Le spin-off, non, ça sera, je dirais, plus, un peu plus léger, plus d'illustration.
Comment est reçu le livre en Normandie ? Parce que je trouve que c'était très très intéressant d'insister sur le folklore normand. C'est rarement fait, même si bon, après, le côté viking, le côté celte, on le connaît, les invasions aussi. Mais il y a quand même des petites particularités qui sont développées au fil du temps donc sur la Normandie et qui sont très rarement traitées. Comment est-ce que ça a été reçu par le public ?
Ben en fait, je trouve le public normand, peut-être, mais bon, c'est peut-être historique aussi, donc il est peut-être moins intéressé par ce, par cet héritage-là que peut l'être le public breton, par exemple, qui est quand même très très intéressé par ce folklore-là, par ses racines, ses traditions, etc., et comment sa culture a pu donner naissance et influer sur sur des légendes, sur des folklores, sur tout un folklore, etc. Mais en Normandie, donc les gens iront peut-être moins naturellement en fait vers ça. Mais une fois au niveau du livre, une fois qu'ils ont ouvert le livre et qu'ils ont commencé à voir tout ce qu'il y avait, la question qui revient, c'est quand vient le livre 2. Donc je me dis que en fait ça les a intéressés. Donc naturellement ils ont plus de mal, mais une fois qu'ils commencent à accéder un petit peu à ça, ces informations, ça a l'air quand même de les intéresser. Donc j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui s'intéresseront un petit peu à cet héritage-là, qui est quand même fort intéressant.
Est-ce que pour l'instant tu restes sur l'univers du Gobelin ou tu as d'autres projets ?
Pas mal de projets effectivement qui sont en cours en ce moment pour la fin 2012 en tout cas. Un jeu de société médical qui va sortir pour la fin 2012, qui est destiné aux étudiants en médecine. Donc j'ai fait les illustrations, il a été créé par Carole Maupin qui est cardiologue. Et donc on reste quand même dans un univers assez particulier. Ça se passe dans un hôpital un peu trash dans lequel les médecins sont à la fois des zombies et des monstres. Toutes les illustrations sont en noir et blanc et niveau de gris, donc ça confère encore plus à cette ambiance assez marquée. Pour le coup, les contrastes là sont bien bien travaillés. Et aussi, pour la fin de l'année 2012, normalement, devrait sortir le prochain recueil de nouvelles de Dominique Varfa, qui est un écrivain de science-fiction, donc chez Longshu Publishing, qui est une maison d'édition que récemment montée. Enfin, j'ai fait la couverture de ce recueil de Dominique Varfa, c'est de la science-fiction, c'est très très sympa. Et donc voilà, ça c'est pour les actualités, donc je fais un petit peu, je fais plusieurs choses à la fois. Donc quand je peux sortir un peu de cet univers et faire autre chose, comme jeux de société ou couverture de livres, je fais, et puis bon, ça permet de se diversifier.
Où est-ce que les gens pourront te retrouver en dédicace ?
Je serai le week-end du 8 décembre sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, Festival Jeunesse de Rouen en 2012. Je serai aussi à Trolls et Légendes à Mons en Belgique en mars. Je participe aussi à 2 autres salons féeries fantastiques. Un dans le sud du côté de Tulle, ça s'appelle Aecontis, c'est un festival féerique. Et un autre festival en Bourgogne qui est festival féerique donc du côté de Mâcon, Contes et Légendes je crois que ça s'appelle. Donc ça c'est ce qui est prévu pour 2013 en fait.
Un mot sur l'ambiance du festival BD Boom pour finir ?
Très sympathique, voilà, c'est super sympa, c'est assez varié. Bon, bah, visiblement, les gens travaillent bien parce qu'il y a beaucoup de passages, je vois, dans les allées. Les gens qui sont curieux s'arrêtent un petit peu à tous les stands. Il y en a pour tous les goûts. Public sympa, en plus. qui aime bien parler, qui demande parfois des dédicaces surréalistes, ça c'est génial. Donc, vraiment très bonne ambiance.
Merci beaucoup.
Merci à toi.